The French Connection.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 284 de la French Connection. C'est la première de 2026. Bonne année tout le monde. On est avec Jacques.
Bonjour, bonne année tout le monde. Là, j'ai une cliente qui m'a dit qu'on a jusqu'au 15 janvier pour dire bonne année. Fait qu'il reste encore
Ouais. J'ai dit ça à quelqu'un aujourd'hui. Je suis comme, moi, il me semble que c'est tard un peu. Là. deux jours de plus. Puis on commence l'année aussi avec Vanessa. Salut.
Salut, bonne année.
Yes. On devrait avoir Richer qui va se joindre à nous dans les prochaines minutes. Pour ceux qui n'ont pas écouté le bye-bye, ben, allez revoir le tout. Là, même si l'année est finie, quand même un bon sommaire, des bonnes blagues et un Francis avec un nœud papillon. Fait que ça vaut la peine d'aller voir ça sur notre YouTube. Mais sinon, on commence l'année avec une petite capsule avec Vanessa. On va parler des systèmes bancaires pour les consommateurs. On t'écoute.
Merci. Aujourd'hui, je vous parle d'un changement juridique qui est survenu quand même dans le temps des fêtes, donc une période de faible couverture médiatique et quand même dans une loi de 600 pages. Donc, on peut vous pardonner si vous n'avez pas lu ça dans le temps des fêtes. Mais moi, je l'ai lu. Et à l'intérieur de cette loi, on a des grands pans de modifications législatives. Aujourd'hui, je vais focaliser sur un de ces pans-là. On va pouvoir probablement en parler très longtemps. Et c'est peut-être que vous en avez entendu parler un petit peu plus sur le thème d'avoir un système bancaire plus compétitif, plus ouvert, peut-être avec différentes interopérabilités. Comme vous savez, pour avoir l'interopérabilité, ben c'est sûr que ça peut avoir des incidences non seulement de sécurité, mais également sur la vie privée des gens, sur les données qui sont partagées. Et c'est pour ça que pendant très longtemps au Canada, on a eu d'ailleurs peu de banques, quand même un domaine assez fermé et très peu de partage de données bancaires entre les banques. Alors, on en a parlé longtemps, on veut un système bancaire plus ouvert, mais ça a l'air de quoi juridiquement un système bancaire plus ouvert? Cette loi-là nous donne vraiment les premiers pans d'un premier cadre juridique qui nous dirait qu'est-ce que ça aurait de l'air au niveau de la sécurité.
Puis là, quand on dit un système bancaire plus ouvert, c'est-tu pour se rapprocher un peu des US avec les Venmo de ce monde, puis tu sais, des applications bancaires un peu plus différentes d'une banque, là, super encloisonnée, si on peut dire.
Ben oui, exactement, mais je peux vous donner un exemple. Si moi, j'ai des données bancaires sur mon compte, on peut voir à l'intérieur que Vanessa appelle ses cartes de crédit, ben je pourrais peut-être vouloir les montrer à... Je suis pas un vendeur d'auto, dire, regarde, je fais mes affaires comme il faut, là, oublie les Equifax, là, mais regarde, prends mes données. Aujourd'hui, je n'ai pas de contrôle sur ma donnée. La banque, d'une certaine façon, a le contrôle de ses données au complet. Et là, ben, il y a des gens qui ont commencé à essayer de donner des accès à des startups, des nouveaux produits pour dire, va chercher mes données, puis aide-moi à faire un budget. Va chercher mes données, puis fais ça.
Ouais.
Et bon, ben, ça crée, on y va par épierre, mais ça crée beaucoup de réticence de la part des banques et potentiellement avec raison aussi d'ouvrir les valves. Et là, le législateur nous apporte, si on veut, ce cadre-là de vie privée et de sécurité. Parce qu'il y a tout un cadre là, de finances, qu'on ne parlera pas de ça, qui est très compliqué à travers tout ça. Puis il y a une grande partie qui parle également de différentes méthodes de paiement, etc. Mais cette partie-là est intéressante parce que moi, je me suis toujours dit, ouais, ça serait cool que les données se promènent. Mais comment on fait confiance à ça? T'sais, on voit qu'est-ce qui se passe au niveau marketing d'un site web à un autre. Le résultat, ça risque d'être nos données qui se font vendre un peu partout. Mm-hmm. Alors, on a une loi ici qui est quand même intéressante parce que c'est, si on veut, le premier exemple d'un amendement législatif depuis Pédale dans lequel on inclut un droit à la mobilité. Donc, si le gouvernement passerait, là, pour les avocats qui écoutent, je vais résumer 600 pages, là, fait que ça se peut que j'aille pas dans tous les détails, mais c'est comme dire, on a privé un droit à l'intérieur depuis Pédale qui dit, si le gouvernement passe un règlement, une loi qui dit, nous allons créer un cadre de partage des données. Alors, à l'intérieur de ce cadre de partage-là, sujet à ce qu'on se conforme au règlement, les données vont pouvoir être partagées et même vous allez être obligé de les donner à quelqu'un d'autre. Et c'est là que ça devient le fun pour les consommateurs. Parce que c'est bien beau le droit à la portabilité, mais quand on commence à mettre ça dans des comptes de banque, des trucs de santé, mais il faut avoir un cadre. Et à l'époque, on parlait de fiducie de données, etc. C'est pas exactement ça au niveau conceptuel, mais par contre, c'est vraiment... une première ébauche de qu'est-ce que ça leur aurait l'air dans le domaine de la finance. Alors, ce qu'on vient de nous dire, et il y a quand même beaucoup de choses qui vont être réglées, si on veut, par règlement, donc très à l'européenne. Donc, la façon qui est écrite est très européenne, les buts sont très américains. Donc, oui, il y a beaucoup de choses à l'intérieur, surtout sur les aspects cryptocurrency, etc., qui sont alignés avec les États-Unis. Mais je pourrais dire que notre loi est plus solide au niveau technique. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce que on parle beaucoup des ratés gouvernementaux au niveau technologique. J'ai quand même été impressionnée par la qualité de la loi qui est sortie, que personne n'en a tant parlé, et la pensée qu'il y a eu derrière ça. Donc, je vous explique à haut niveau. On a la Banque du Canada qui se trouve à être, si vous voulez, moi, je vais l'appeler le fiduciaire des données, mais eux autres l'appellent le régulateur, l'autorité centrale du système bancaire axé sur les consommateurs. Elle est responsable d'accréditer qui a le droit. Fait que c'est comme un réseau fermé. Et si je veux faire partie de ça, je vais aller à l'intérieur, sauf si je suis une banque, j'ai un droit d'accès. Si je ne suis pas une banque, je dois demander d'avoir accès. Et c'est là que le gouvernement passe son règlement et dit « Vous devez avoir toutes ces mesures de sécurité-là et être certifié sur ces mesures-là pour venir jouer. » Donc, c'est un « paper play », mais en sécurité. Donc, il faut rencontrer ces obligations-là. Il faut minimalement avoir certaines mesures. Et là où est-ce que ça devient encore plus intéressant, les sous-traitants de ces personnes-là vont devoir être accrédités pour donner certains types de services, dont l'identification et dont la gestion des fichiers journaliers et certains services de sécurité. Et donc, c'est comme si on crée un premier système juridique de confiance. Comment on va instaurer une confiance juridique? Et oui, à l'intérieur de ça, on a des obligations de cybersécurité qui sont plus précises, donc plus près de ce qu'on voit en Europe avec DORA. Mais en plus, le gouvernement donne le droit à un ministre de publier des standards de sécurité qui vont devoir être mis à jour et auxquels les entreprises vont devoir se certifier avant d'avoir le droit d'avoir des données bancaires. Et là, bien évidemment, vous doutez, il y a tout un système à l'intérieur de ça que le moindrement qu'un incident, ça doit être non seulement notifié à la banque, mais la définition est beaucoup plus large, c'est-à-dire toutes les données bancaires appartenant aux consommateurs, qu'elles soient personnelles ou non, dès qu'il y a un incident, on va devoir notifier immédiatement la Banque du Canada.
Puis, si on oublie le concept des consommateurs, excuse-moi, tu iras tout de suite après, genre, est-ce que ces obligations de sécurité-là existent aujourd'hui pour les banques ou c'est 100% nouveau tout ça?
Bon, d'abord, c'est que ça ne va pas juste toucher les banques, ça va toucher, par exemple, si moi, je suis une start-up qui dit « j'aimerais ça avoir accès aux données bancaires ». Puis là, la banque, au lieu de négocier des API et des contrats qu'on ne voit pas, c'est comme un contrat public. Si tu veux rentrer là-dedans, il faut que tu satisfais tout ça. Alors, selon l'entité, il peut y avoir différents niveaux de protection qui s'appliquent dans la loi. Les banques sont des entités fédérales, donc elles sont soumises à PIPEDA. PIPEDA, qui n'est pas la loi 25 au Canada, comme on sait, qui est une loi avec un peu moins de mordant. Donc, les banques ont un propre système de surveillance. Et on voit encore aussi, ça fait partie de mes questions, on demande à la Banque du Canada de surveiller tout ça. As-tu l'expertise de ça, de faire ça au niveau de la sécurité? Pourquoi qu'on a choisi la banque? La banque surveille les banques. Est-ce que, dans le fond, ça aurait pu être fait différent? Probablement que oui, je suis sûre que ça aurait pu être fait de plein de façons différentes. Mais ici, on a choisi de faire un réseau fermé avec les acteurs du milieu et une accréditation, mais par un acteur du milieu également.
Quand tu dis que PIPEDA n'a pas autant de mordant que la loi 25, puis la loi 25 n'a pas trop de mordant, fait que PIPEDA, ça mange la compote aux pommes encore, là. dans la vraie vie, là.
Mais c'est qu'elle ne permet pas les mêmes recours aux particuliers, aux consommateurs. Ouais. Donc, tu sais, c'est bien beau d'inclure, par exemple, c'est des questions à voir parce qu'on sait qu'il y a des modifications qui s'en viennent dans d'autres lois. Hein? Mais ouais. Là, pour l'instant, même si vous me donnez ce droit-là, mettons la portabilité, mettons qu'on ne le respecte pas, ça a l'air de quoi mes recours? Au Québec, comme consommateur, j'en ai vraiment beaucoup. Au fédéral, comme consommateur, moins. Fait que là, j'ai un système technique qui est axé sur le consommateur. La question se pose, est-ce que j'ai un système de droit qui est axé sur le consommateur dans le système bancaire? Est-ce que le consommateur moyen a l'impression d'exercer ses droits auprès des banques? Et est-ce que ça va être assez pour créer la confiance qu'on veut créer en mettant toutes les banques à l'intérieur et en disant qu'il va y avoir beaucoup de règlements? C'est le gros critique européen. En Europe aussi, ils passent des lois légaux qu'on appelle, puis on espère que à la fin, ça va bien s'empiler. Mais à l'inverse, s'il fallait tout régler avant de passer à la loi, on n'avancerait jamais. Et c'est ce qu'on reproche au gouvernement. Fait que beaucoup de concessions qui ont été faites derrière cette loi-là qui a passé très, très vite pendant le temps des fêtes.
Explique-moi comme si j'avais 5 ans, là, tes 600 pages. qu'est-ce que ça va faire pour le consommateur? Exemple, tu parlais là, d'application, de budget. Ouais, moi, pendant des années, j'ai utilisé Intuit Quicken, qui se connectait sur mes comptes de banque, qui allait chercher toutes mes transactions, je suis classé. Puis une des choses que je trouve le fun avec ça, une des raisons que j'encourage les gens d'utiliser des logiciels comme ça, c'est que ça te permet de voir toutes tes transactions. Là. Puis le plus souvent, tu vas télécharger ou tu vas dans les logiciels, puis ça se met à jour, bien, tu peux voir s'il y a eu peut-être eu des potentiellement des transactions frauduleuses. Là, depuis l'année dernière, j'utilise pas Quicken, j'utilise un autre outil. Et là, il y a des intermédiaires là-dedans. Il y a Plaid, il y a MX. Fait qu'exemple, moi, dans la plateforme que j'utilise, ça peut se connecter en utilisant soit Plaid ou MX à mes comptes de banque, dont une qui est une banque canadienne en ligne. Mais il y a des problèmes. Est-ce que ces choses-là vont venir simplifier l'accès pour ces fournisseurs-là, pour ces plateformes-là?
Oui, exact. Puis là, je vais parler encore une fois juste de cet aspect-là parce qu'il y a beaucoup d'autres choses pour les consommateurs dans les 600 pages. Mais d'abord, c'est que effectivement, ça se fait puis ça prend un intermédiaire. Un intermédiaire qui a une entente avec la banque, un API connecté. Donc, c'est pas ouvert à tout le monde. Ça, c'est numéro un. Et c'est pas très transparent non plus les mesures de sécurité qu'on met là. Et l'autre, dans le fond, qui reçoit les données peut être soumis à d'autres règles juridiques. Donc, déjà ici, on vient mettre en fait des règles du jeu qui sont claires. Si on touche aux données, peu importe comment, tout le monde doit avoir les mêmes mesures en place. Mais en plus, comme tu dis, il peut y avoir certains problèmes. Maintenant, le gouvernement nous dit qu'il va y avoir des règlements sur l'architecture d'échange de données. On ne dit pas que ça va être open source, mais on dit qu'il va y avoir des façons d'échanger les données et donc de structurer. Aux États-Unis, là, par exemple, dans le réseau scolaire, c'est comme ça. Un EdTech doit suivre certains standards pour que l'enfant, quand il change d'école, ça a du sens. Hey, c'est-tu une bonne idée, cette affaire-là? Ben, nous, on a un petit peu poussé ça dans cette loi-là. On parle d'interopérabilité, chose qui n'existe pas dans l'équivalent américain. On parle de mécanisme de contrôle et surtout, on parle d'être accrédité pour pouvoir identifier des Canadiens. Ça, j'aime ça. Pour avoir le droit de donner un service d'identification de Canadiens dans le réseau bancaire, il faut être un vendeur accrédité et c'est pas n'importe qui. Et d'ailleurs, c'est très bien clair dans la loi qu'on va privilégier les vendeurs canadiens. Alors, c'est quand même un gros pas en termes d'infrastructure de confiance par rapport à ce qu'on avait avant, qui était un petit peu des contrats signés un petit peu à gauche et à droite avec certaines banques et sans grande transparence aux consommateurs. Puis, en gros, qu'est-ce qui est le fun pour nous, exactement comme tu le fais, c'est qu'on va pouvoir contrôler nos données. On va pouvoir dire à une banque, t'envoie mes données à quelqu'un d'autre. On va pouvoir avoir une meilleure confiance aussi, parce que je vais dire à la banque X qu'il l'envoie à la banque Y. C'est pas moi qui vais mettre ça dans mes poches pour essayer de repousser ça en quelque part. Ceci étant dit, ça prend des mécanismes techniques. Puis la mise en œuvre va tout vouloir dire ici. La mise en œuvre et la capacité de la Banque du Canada de gérer ça. Et moi, je pense que on regarde peut-être un brouillon de qu'est-ce que le réseau de la santé pourrait avoir l'air dans le futur.
Cool. Ça devrait donner des applications plus le fun et côté bancaire, investissement, blablabla. Ouais, on est tellement restreint aujourd'hui. Ouais. Salut, Richer. Ça va?
Bonjour. Oui, ça va bien, vous autres?
Yes.
On dirait que Richer joindra nous. Une station en Antarctique, là, en train de m'envoyer son café. Puis,
il coupe, là. Puis... Oh oui, mais moi, écoute, moi, il fait quoi? Il fait 22. Il fait froid ici. Là.
Pas dans le sud, là.
Non, exactement. Je n'ai pas ce luxe-là, moi.
Eh bien, bonne année, mon Richer.
Bonne année à vous aussi.
Yes. Hey, Vanessa, je ne sais pas si tu peux commenter celle-là, mais ça tombe un peu dans le même sujet qu'on parlait de la loi 25. Bureau, en gros, qui s'est fait épingler par le commissaire à la protection de la vie privée parce que au bureau, en gros, quand tu achètes un ordinateur, tu peux le retourner, mais il n'effaçait pas les données à la bonne vitesse ou tout le temps ou comme il faut. Fait que là, les ordinateurs se revendaient avec des données de quelqu'un d'autre dessus. Oups-play! Que je me demande qu'est-ce que ça va donner sur la loi 25 et autres. Mais évidemment, ils se sont fait prendre peut-être à une place, mais ils ont 300 quelques magasins au pays. Fait que je ne sais pas si ça va impliquer l'autre loi que tu disais, je ne suis pas bon avec les noms, Pay, Pida, quelque chose. Non. Ouais.
C'est quand même intéressant parce que il y a quand même beaucoup de compagnies qui presque blatantly violent la loi. Puis ici, on a quand même un cas où tu dis, c'était-tu à la personne, me semble, d'effacer ses dettes? C'était-tu une politique d'entreprise de les revendre de même? Tu sais, je veux dire, c'était-tu l'entreprise a dit, nous, on s'en fout, on les revend toutes de même? Ou c'était-tu tellement fréquent que là, on est en train de dire que c'était négligent? Puis là, c'est quand même intéressant comme cas. C'est-à-dire que je pourrais me faire poursuivre en étant négligent. Dans ce cas-là, je te dirais, c'est plus une question de... C'est, je pense, une question réputationnelle. On s'entend qu'ils le feront plus après être des journaux comme ça. Puis c'est plus... moi, j'appelle ça une tape sur les mains dans mesure où ici, ça me paraît pas être une pratique d'entreprise établie. Et il y a des gens qui ont des pratiques d'entreprise établies encore aujourd'hui qui ne rencontrent carrément pas les objectifs de la loi, qui s'écrit dans une politique. Nous faisons ça. Là, on est dans un cas où je peux comprendre qu'ils devraient toujours être clearés. Mais est-ce que c'est des employés qui étaient un peu négligents ou c'est le management, hein?
Oui, ça tombe mou dans le processus. On s'entend.
Mais juste nettoyer votre ordinateur avant de le ramener. Prenez pas pour acquis que quelqu'un d'autre va le faire pour vous, ça serait quand
non,
même...
Non, mais tu sais, le monde qui ne connaisse pas ça, ils ne savent non, même pas ça. Qu'il faut qu'ils le fassent. Là. C'est...
Les autos, tout ce que vous louez, vous désinfectez à l'intérieur, à l'extérieur avant de ramener.
Oui. Ça aussi, c'est un truc le fun. Je pense qu'on avait déjà parlé, mais ça, louer une voiture, puis tu as tout le compte, toutes les SMS de l'autre personne de la route.
Ouais, les gens ne déconnectent pas leur téléphone quand ils remettent la voiture, puis... quand j'ai loué la voiture en Espagne, là, il y avait plein de téléphones plugués là-dessus.
Ah oui, c'est toi qui
voir si ça avait des contacts et tout ça, mais les gens ne pensent pas à ça. Là, c'est comme, tiens, la voiture, bye.
Oui, puis tu as tout le temps, quand tu le connectes, l'option de dire, voulez-vous connecter tous vos SMS, vos contacts, blablabla, mais ça les enregistre. C'est pas juste tu peux fetcher avec un API, non, ça tourne load.
C'est juste un vieux numéro, c'est même pas le mien. Mais oui, mais les gens vont appeler ta grand-mère, vont dire « Vanessa s'est fait kidnapper au Honduras en louant cette... »
Ouais, j'avoue, hein.
Tu veux savoir, j'étais là, tu sais, le monde, là, puis même une mauvaise blague, là, ça peut aller très loin. Un enfant qui appelle puis qui dit ça, là, tu sais, là, ça peut être un enfant, mais du social engineering, c'est ça, c'est le numéro de téléphone, c'est pas sensible. Le numéro de téléphone dans l'auto, dans tel pays, à telle heure, telle date, tu sais, il y a beaucoup de contexte là-dedans que les gens ne voient pas, hein.
Ouais, le concept du GPS, c'est coordonnées géo, whatever. Beaucoup d'entreprises, c'est comme, ben, c'est pas sensible. Ben, c'est sensible si tu l'attaches à quelqu'un, parce que tu sais, il est où à quel moment.
Exact.
Fait qu'il faut que ça soit chiffré bord en bord, puis sauvegardé, puis blablabla. Non, c'est quelque chose. Ouais, fait qu'on va voir ce que ça donne, mais comme tu as dit, je pense que c'est plus une tape sans main, puis qu'ils vont, régler leur processus. parlant de processus, ben celle-là, il est intéressant. La SAC sera chaperonnée par l'OMP. Puis ça, c'est la partie qui me fait rire, je suis désolé. L'OMP qui a trouvé d'importantes irrégularités. On a-tu besoin d'en dire plus?
On est obligé d'aller plus loin que ça. Là.
L'intéressant ici, par exemple, c'est que l'autorité des marchés financiers, normalement, elle ne s'occupe pas de l'exécution. Elle s'occupe... Non. Marché
Mais là, c'est l'autorité des marchés publics qui va gérer ça.
De ce qu'on appelle le procurement. Puis là, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on savait déjà que l'exécution allait pas bien. Mais là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que d'après moi, le procurement allait déjà pas bien. Il y a quelque chose qui marchait pas à ce moment-là. Puis...
Non, mais c'est parce que ce qui est plus désolant dans cette histoire-là, là, puis quand on retourne en arrière, parce qu'évidemment, on en a parlé en masse dans les médias puis sur le podcast, mais cette histoire-là a commencé à déraper vers 2015-2017, en termes d'exécution, là, comme tu expliques. Que l'OMP dise aujourd'hui, ouais, il y a des problèmes, c'est presque 10 ans tard, là. Fait que ça démontre que le processus, puis j'ai aucune idée comment ce processus-là fonctionne, là, mais ils ne sont pas impliqués dans ces projets-là, tant qu'il n'y a pas une dénonciation pendant des années, publiquement, je pense. Là. Il y a quelque chose qui n'est pas là, là.
Ça semble être bien en retard, là, leurs affaires.
Parce que, tu sais, les employés internes dénonçaient que c'était tout croche dans le coin de 2017 à 2020. Parce qu'on est en 2026, là.
C'est que la SAC n'a rien compris de ses besoins. C'est sûr que là, je vais résumer.
Oui, on s'entend.
En fait, quand ils sont allés au marché, ils ne demandaient déjà pas la bonne affaire. Fait qu'ils ont dit, vous n'avez pas été capable de déterminer vos besoins. C'est vraiment simple que le rapport dit, vous n'avez pas compris du tout. Vous n'aviez aucune méthode d'évaluation de vos besoins, sûrement que quelqu'un, un consultant, vous a dit c'est ça que vous avez besoin. Pas de idée 2, 3 et 4. Ils sont allés directement vers ça sur les marchés, puis c'est comme ça qu'on s'est ramassé où ce que c'est. Fait qu'en gros, c'est plate, mais souvent, là, nous autres, on arrive des contrats, puis là, on te demande de corriger un contrat, puis on dit aux gens, toi, tu as besoin d'aller en appel d'offres. Mais avant d'aller en appel d'offres, tu as besoin de faire un mandat pour comprendre c'est quoi tu as besoin. Puis après ça, tu as besoin d'aller en appel d'offres. Puis, malheureusement, le procurement, là, c'est le monde, il dit ça se fait plus donner à des amis. C'est juste ça. C'est juste ça qu'on voit sur le marché.
Oui, mais ceux qui ont fait l'analyse, là, me semble que ce n'est pas des gens du consortium, là, le LGS et cette gang-là, qui ont fait ça, qui ont fait l'analyse, puis ont dit à ça qu'est-ce qu'ils avaient besoin, puis après ça, ils ont gagné le mandat.
Ils ont dit vous avez besoin de nous.
Hein?
Mais
le processus, quand tu regardes ça d'un peu plus loin, un pas en arrière, LGS a dit vous avez besoin de ABC. ABC fourni par LGS.
Ah oui.
Il a dit vous avez besoin de nous, au final.
Pas Salesforce, mais SAP.
SAP.
Ouais.
Parce que c'était ceux qui redistribuaient le SAP.
Mais là, il a sûrement mis un beau disclaimer qui disait « Voici des idées, mais la décision est vôtre et je n'en suis pas responsable. »
Oui, on s'entend, légal, ça devait être correct. Là. Mais ce que tu décris, Vanessa, je pense que c'est la majorité des gros projets, excuse, gouvernementales. C'est pas unique, ça, là.
On le voit sur le marché privé, mais tu sais, souvent...
Oh, oui, évidemment, mais sur le marché privé, c'est pas notre argent.
Il y a une entreprise pour le faire. T'sais, souvent, quand on leur explique, regardez, là, tu sais, ton retour sur l'investissement, d'investir un peu plus dans avoir un bon processus et de bien comparer les compagnies, fait en sorte que tu vas gagner de l'argent à la fin. Puis tu vas avoir un
c'est clair. Tu perds, ben, tu perds. Tu mets plus de temps au début. Ça a l'air d'une perte de temps, mais comme tu dis, tu sauves beaucoup après. Puis moi, ça m'a fasciné, là, tu sais, dans mes derniers emplois, quand on faisait ces analyses-là, on pouvait prendre un à deux mois de tests. T'sais, on l'implante, la solution, puis on la teste, puis on a des grilles de tests. Puis quand la grille est finie, on switch de fournisseur, puis on la recommence. Moi, quand je vois que c'est le plus bas soumissionnaire, on ouvre une enveloppe, puis voici, that's it, on ne l'a jamais testé. Holy crap! T'as pas besoin d'expliquer plus que ça, je pense. Ça démontre le problème. Tu ne l'as pas testé. C'est sûr que tu ne sais pas si ça marche. T'as bien beau être le meilleur du monde, là, pour vrai.
Ça n'a pas été testé, mais ce qu'on voit ici, c'est que selon le comité, il n'y a pas eu d'évaluation des besoins, pas eu d'évaluation du marché, pas eu d'évaluation des coûts. Et les obligations ont été divisées de façon à ce qu'aucune personne soit responsable du total.
Oui, c'est lui qui n'a pas testé, c'est toute la chaîne.
Exactement. Il n'y a personne qui a testé tout mis ensemble à la fin. Il n'y a personne qui était responsable pour le résultat.
On a hâte de voir le rapport du commissaire Galland au mois de février, hein? Ça s'en vient.
Ah oui, c'est bientôt ça.
Ouais, je pense que c'est le 13 février là, qu'il a dit que ça sortait dans un mois.
On
annule la Saint-Valentin, on a tout quelque chose à faire.
Ouais, il devrait sortir ça le 15 février. Non, c'est pas vrai, parce qu'après la Saint-Valentin, tous les chocolats de Pâques qui sortent à la pharmacie, là, fait que moi, je suis là.
Ouais, on veut nos petits F.
Ben oui.
Mais ouais, dans ça aussi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que dans le passé, les commissions.
Ouais.
C'est ça.
Exact.
Yes. Tu en penses, mon Roger?
Ben écoute, dans les projets d'habitude, quand tu vois un projet, là, tu vas voir qu'on a ce qu'on appelle le scope creep. Tu sais que finalement, ça prend trop de temps parce que les besoins changent au fil du temps. Là, vu justement, ils ne savaient même pas c'était quoi. Fait que c'est de l'anti-scope creep rendu là. On est le contraire de trop de changements. Il n'y en avait pas assez. Puis ça a pris du temps pareil. Fait que, je sais pas, c'est assez ordinaire. Là.
Ouais, deux extrêmes.
Exact.
Ouais, tout à fait. Jacques, ben allons-y avec quelques nouvelles. Attends un peu, je peux même cliquer sur un son. On pourrait faire une section pour ça qui s'appelle.
Il y en a une. On t'ouvre le fichier.
Oui, c'est ça. Section patcher vos systèmes, parle-nous de ça.
Ben oui, c'est ça. On est quoi? C'est le premier Patch Tuesday de l'année. Hein? Bonne année. Il vient de sortir ce soir. Clairement, j'arrête pas de recevoir des billets et des alertes là, de toutes les vulnérabilités qui sont soulevées. Mais pour le premier Patch Tuesday de l'année, 114 vulnérabilités sont corrigées. Il y a 50 élévations de privilèges, 22 exécutions de code à distance, 22 divulgations d'informations, 3 contournements de fonctionnalités de sécurité, 5 usurpations d'identité, 2 dénis de service. Et dans tout ça, il y a 3 zero days. Fait que, comment on pourrait dire ça, là, de inciter les gens à mettre à jour leur système? Patchez vos systèmes, hein, c'est le temps.
Ouais, puis... Tu sais, au final, c'est presque plus de la sécurité. C'est juste la gestion de parc. Là. C'est mettre des choses à jour.
Écoute, je travaille avec des PME, je pense que tout le monde le sait, mais dans de la moyenne et de plus grande entreprise, il faut quasiment qu'il y ait mettons dans la moyenne entreprise, au moins une ressource attitrée au patch, hein, de surveiller ça, c'est quasiment une job à temps plein. Dans la plus grosse entreprise, ça doit prendre une équipe juste pour gérer là, les
CDL, c'est des équipes de sécurité. De
ouais. C'est une job à temps plein. Là. Ça finit jamais.
C'est pas juste une job. Ça devient un processus. À un moment donné, dans une grande entreprise, c'est pas vraiment quelqu'un qui fait ça à temps plein. Là. Je te dis pas que t'as pas besoin de personne, mais il faut que ça devienne normal.
Ouais.
C'est que toutes les équipes gèrent leur assets, là, leur inventaire, puis que ça se fasse tout seul. Ou justement de l'automatisation, tu sais, qu'on parle, parce que là, tu parles de Microsoft, de Windows et autres, mais les patchs dans les jQuery, les librairies web, là, tu sais, faut que ça se mette à jour automatique. Faut que tu le testes, là, mais pas facile.
Mais là-dedans, en même temps, c'est que ça soulève un bon point que tantôt, on parlait que, tu sais, il n'y avait pas personne qui était responsable là, pour l'histoire de la SAC, tout ça, là. Fait que, en même temps, ça responsabilise d'avoir un processus, d'avoir une hiérarchie organisationnelle, d'être capable de savoir qui fait quoi à quel moment. Même chose que pour les incidents. Quand tu as des responsabilités par rapport à ça et que les gens savent où aller et quoi faire, c'est beaucoup moins compliqué de pouvoir avoir plusieurs personnes pour faire la même affaire étant donné que tu as un processus établi. Mais pour ça, il faut que tu l'établisses, ton processus. Puis il faut que tu saches ce que tu as à faire. Parce qu'autrement, combien de fois que les gens vont juste être perdus? On va faire, c'est pas ma job, c'est pas dans ma définition de tâche. Ouais, mais comment, là? C'est quoi cette histoire-là?
Là, Richer, parle-moi de DevSecOps.
OK.
Ouais,
non.
Si je voulais juste voir ta réaction.
Écoute, on change de sujet, on va parler d'autre chose, là.
Il n'y a pas de trouble. Mais ça a causé des problèmes, ça, dans ce concept de mise à jour-là, parce que tout le monde est devenu responsable sans voir tout ce que tu viens de dire. Ouais.
Oui, ben exactement. Mais tout le monde est responsable de tout, mais personne ne l'est. Parce que tout le monde l'est. Donc, ça vaut rien, ça. C'est la même chose que quand tu as une organisation, que quand tu deviens avec une organisation plate, tu sais, avec un niveau, c'est correct quand tu as quelques employés, mais quand tu es au-dessus d'une centaine et plus, comment tu gères ça? Tu peux pas. C'est plus difficile rendu là. Puis étant donné qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Pas de responsabilité, mais de accountability. J'oublie le mot en français.
Imputabilité.
Et voilà. Imputabilité. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, tu sais, il n'y a pas ça, là, autrement. Puis il n'y a pas personne qui se sent forcé de le faire parce que personne d'autre le fait. C'est l'inverse du les autres le font, fait le don.
Il n'y a pas de tape ses mains non plus. Ouais.
Exactement. Mais c'est parce que personne ne sait où il faudrait qu'il tape des mains. Puis à quel moment. Puis qui? Il n'y a personne qui sait rien. C'est un problème rendu là.
Évidemment, quand on parle de patch management, il faut parler de vulnerability assessment. Hein, savoir ce que tu dois patcher, ce que tu devrais patcher, ça veut dire que tu évalues tes vulnérabilités. Tu sais, puis ça, je vais dire quasiment en temps réel, il faut qu'il y ait quelque part quelque chose qui soulève les vulnérabilités.
Tu peux plus faire ça manuel, à cette heure. Tu peux plus vraiment faire ça manuel.
Non, c'est ça. Dans l'écosystème Microsoft, on sait, là, Defender va soulever toutes les vulnérabilités. Comme là, ce soir, c'est ça, là, je reçois plein d'alertes de Defender de tous mes clients. Il me dit, telle vulnérabilité, Windows 11, Windows 10, toute la patente, let's go. Constamment, là. Fait qu'il faut avoir ces systèmes-là qui surveillent ça, prioriser les vulnérabilités, est-ce que ça s'applique vraiment à nous, et ensuite s'occuper de ça. Mais il faut les faire. Tu sais, on peut pas négliger ça.
Oui. Ben, c'est ça. Mais en même temps, tu soulèves un autre bon point qui est la gestion de risque rendue là. Parce que pour certains, c'est pas grave que ce soit pas fait tout de suite, mais il y en a d'autres que peut-être ça va être plus important. Puis en même temps, c'est le même principe que c'est bien beau avoir des logs, mais si personne ne les regarde, ça va quoi?
C'est ça. Hein? Puis on s'entend, une vulnérabilité ne veut pas nécessairement dire un exploit. Hein? Fait qu'il ne faut pas tout le temps s'énerver. Là.
C'est pas nécessairement un problème. Qui est exploitable dans ton application, puis que ça se rend là. Mais ça, on pourrait en parler longtemps. J'ai même fait un blog juste sur ce sujet-là. Mais le problème de la majorité des scanners de vulnérabilité, c'est qu'il va te lister toutes. Qui n'est pas en contexte avec ton organisation et tes systèmes.
Ouais.
Fait que là, voici 50 CVE, mais dans ces 50 CVE-là, il y en a juste un qui a un exploit public, fait qu'on sac de tout le reste.
Ouais.
Puis là, est-ce que tu sais si la fonction qui est appelée dans ton application va caller la fonction vulnérable, oui ou non?
Ouais.
Mais là, 90%, voire plus aujourd'hui, là, de tous les scanners, ils font pas ça, ni un ni l'autre. Tu sais, tu plugs la dernière job, on a connecté un truc de cloud. Hey, le premier scan, il a sorti 2 millions de vulnérabilités puis 5 millions de misconfiguration.
Ah. Ah oui, la job à faire.
Je foute avec ça. Voyons donc.
Puis, c'est une des raisons perso, puis je sais qu'il y en a qui n'aiment pas Microsoft, parfait, puis on est d'autres dans la communauté qui apprécient ce que Microsoft fait. Exemple, dans la console Defender, là, tu as toute cette threat intelligence-là, de toutes les vulnérabilités qui sont présentes, qui sont répertoriées, puis après ça, ça va te dire, est-ce que ça affecte tes appareils? Est-ce que ça affecte tes serveurs, tes postes de travail? Si oui, une telle vulnérabilité dans, je sais pas moi, Adobe, là, Acrobat, ben là, il va te dire combien de postes que tu as ce logiciel-là? Est-ce qu'il y a un exploit pour cette vulnérabilité-là? Fait que tu sais, juste à regarder la console, là, tu as une très bonne idée de c'est quoi ma posture, là. Est-ce que mon risque est élevé parce qu'il y a une vulnérabilité majeure, un 9 sur 10 de CVSS, puis 30 de mes 40 postes sont affectés, il y a un exploit, ben là, tu priorises ça. T'sais? Fait que toutes ces informations-là sont dans la console, c'est génial.
Ouais, ouais, ouais. Fait que, comme tu dis, c'est comme un sujet pour une équipe complète. après ça, bon, on parle d'Europol qui a arrêté... les members, excuse, les Black Axe members, 34.
Ben oui.
Membres, là. Ouais, ça fait jaser en Europe, ça.
Oui, Europol et la police espagnole, la Policía Nacional, ont arrêté 34 membres du Black Axe. C'est un groupe de cyber méchants parce qu'ils ont volé plus de 5,93 millions de dollars. Ils ont arrêté 28 personnes à Séville, 3 à Madrid, 2 à Malaga, 1 à Barcelone. Et puis, on explique que Black Axe, ben, c'est un groupe criminel qui date, là, hein, c'est une origine nigérienne, ça date de 1977. Ils ont juste évolué, là, toutes leurs activités, puis aujourd'hui, ils ont plus de 30 000 membres enregistrés. Fait que c'est pas petit, là, c'est un gros groupe de cyber méchants, mais là, on vient de faire un petit impact, là, au niveau de l'Europe et de l'Espagne. On vient d'attraper beaucoup de ces gens-là. Est-ce que ça va mener à peut-être d'autres arrestations plus tard? C'est espéré. Mais on voit, c'est le fun, on en a parlé, on a parlé dans un des derniers podcasts. On voit là, des fois les efforts des autorités. Ouais, on peut dire que c'est un grain de sable sur une plage. Mais regarde, c'est quelque chose. Hein?
Oui, puis comme tu dis, les preuves ramassées là peuvent mener à d'autres et blablabla. Ouais.
Ouais.
Ça peut aider. Mais pas facile. Puis là, on parle de Breach Forum qui a été breaché. Ouais. Breach Forum Breach.
Qui a été breaché. Ben, Breach Forum avait été fermé quoi, en 2004, ouais. Je pense. Hein, ça avait été. Fait que là, hey, on commence bien l'année, garde deux bonnes nouvelles, si on veut. Mais il y a un cyber méchant, un groupe de cyber méchants qui s'appelle quoi, Shiny Hunters, là, qui un gars qui s'appelle James, qui a publié sur son site 323 986 comptes de gens qui étaient abonnés sur Breach Forums, puis qui uploadaient là, toutes sortes de bases de données, puis qui vendaient toutes sortes de choses. En d'autres mots, plus de quasiment 324 000 cybercriminels. Là, on a des adresses IP. Ouais, c'est ça. On a des adresses IP, on a des adresses courriels, des noms, il y a toutes sortes d'affaires. Fait que ça, là, ça va être de la viande incroyable, une ressource incroyable pour les autorités de peut-être essayer de trouver beaucoup de ces cybercriminels-là aussi là, qui flottaient un peu partout et qui vendaient leurs cassins sur Breach Forums. Fait que, encore là, c'est un autre bon coup, quelque chose qui va aider les autorités peut-être à minimiser là, ou arrêter d'autres mondes. Hein?
Oui, tout à fait. On risque de en reparler cette année, mais
ouais.
324 000. C'est sûr que ça va faire mal à quelqu'un, peu importe.
C'est clair qu'il y en a qui vont se faire taper ses doigts. Je suis certain que ça va mener à quelque chose. Puis je pense qu'au fil de l'année, là, on va peut-être revenir sur cette brèche-là, cette publication-là de tous ces noms-là. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'entendre parler là, en 2026.
Tout à fait. Faut que je rajoute un lien dans les show notes. Il y a eu la conférence 39C, si je ne me trompe pas, en Allemagne. C'est un des gros grosses conférences en Europe. Il y en a une à Noël, aux 2 ans, si je ne me trompe pas. Puis il y en a une le camp, l'été, le CCC. Puis il y a eu beaucoup de conférences très intéressantes. Vous irez voir ça en ligne, mais celle qui a interpellé beaucoup, beaucoup de monde. On mettra le YouTube là, dans les liens, mais quelques. Un gars qui s'est présenté à sa conférence habillé en Power Ranger, donc pas visible évidemment, et a shutdowné complètement une organisation de, je pense c'est de nazis, le White Power, quelque chose. C'était ça ou des pédophiles, je me souviens plus, excusez du détail. Je l'ai pas devant moi, mais il a délité le site web, les comptes sociaux, les courriels. live on stage. Fait que ça a brassé là-bas. Je ne sais pas la suite de l'histoire.
Est-ce que l'identité de ce Power Ranger-là a été révélée à un moment donné?
Je pense pas, non. Bon, intéressant à voir, mais il y a plein d'autres bonnes conférences, évidemment, sur comment hacker les AI et plein d'autres choses. Là. Fait que allez voir ça, ça brasse. Oui. Puis présentement en Iran, parce que là, c'est le bordel là-bas.
C'est fou, hein? On a réussi à bloquer les signaux de Starlink. Là, 80% de packet loss avec Starlink. Là, ce qu'on lit, c'est que c'est de l'équipement russe avec du software chinois.
C'est les amis des amis. Puis techniquement, c'est que l'attaque habituelle, c'est d'utiliser du GPS jamming. Parce que supposément que Starlink, pour beamer à bonne place, là, ils checkent la direction et tout. Mais là, évidemment, ils ont ajusté ça pour que ça marche quand même bien. Mais là, ils font une autre sorte de jamming que je n'ai pas trop compris dans les articles. Là, ils ne l'expliquaient pas bien, ceux que j'ai vus, mais qui permet de jammer le signal qui va vers le satellite. Carrément. Fait que là, ils ont un nom de la tech là, qui vient de la Russie, comme tu dis. Là.
Mais comme Steve mentionnait, tu sais, c'est peut-être que les Chinois sont contents d'avoir testé ça en Iran. Parce que là,
et là, c'est ça l'affaire. C'est que la Russie et la Chine ont testé leur affaire. Supposément qu'ils testaient déjà ça en Ukraine. Puis que là, ils l'ont testé pour une population. Parce qu'en Ukraine, je pense que c'était super centralisé. Là. Tu sais, c'est comme ben, là, les deux personnes-là, ils empêchaient les drones de partir. Mais là, c'est des milliers de personnes qui perdent accès. Ouais. Puis évidemment, là, aujourd'hui ou hier, je pense qu'il y a eu des milliers et milliers de morts. Là.
Mais on parlait de la dernière nouvelle, moi j'ai vu 500-600 morts, 10 000 arrêtés.
J'ai vu 12 000 morts.
C'est triste ce qui se passe là-bas. Moi, je souhaite bonne chance à la population là, de finalement essayer de se débarrasser d'un régime autoritaire comme ça. Ça serait une bonne chose.
Ça fait longtemps qu'il est là, en plus.
79, depuis la révolution de 79.
Ça brasse partout.
Ça brasse partout, c'est fou. Puis moi, je sais pas ce que vous pensez de ça. Moi, perso, là, j'ai comme une fatigue mentale de voir tous les débats au niveau de toutes les histoires qu'on lit là, dans les
marques. Pour vrai, faut pas lire les commentaires et les débats sur les réseaux sociaux.
Mais tu regardes, il y a eu deux gros événements en une semaine. Là, l'extraction de Maduro, puis après ça, la femme à Minneapolis qui s'est fait tuer. Ouais. Ce qui est étonnant, c'est de voir que on regarde la même vidéo. Hein, on regarde les mêmes
c'est
vidéos.
C'est polarisé de deux bords. Hein?
Puis là, il y en a qui disent « Ah ouais, écoute, t'as foncé dans le policier, il a fait la bonne chose de tuer, de tirer. » Puis l'autre qui dit « Ben non, il s'en a pas. » Puis on regarde la même vidéo, puis on a deux vérités différentes. Comment ça se peut pas, là? Je parlais avec un de mes chums, ben Richard, qui a déjà été sur le podcast, puis il dit « Garde, c'est parce qu'on n'est plus dans les faits, on est dans les croyances. Dans les croyances basées sur l'idéologie, puis c'est là qu'on est, puis c'est épuisant de lire ça, là. Je ne sais plus c'est quoi la vérité aujourd'hui. Il y a tellement de points de vue. Tout le monde a raison. Tout le monde se crée après.
En plus, tu ne sais même pas si la vidéo est vraie ou il est deepfake. Ben, c'est rendu à ce niveau-là. Quand le dernier que j'ai vu sur cette histoire-là de la madame, c'est qu'ils ont ralenti la vidéo au début du gars qui filmait, là, de l'agent qui a tiré. Puis tu vois la fille qui tourne le volant pour éviter le gars. Et elle fonce pas dessus. Mais là, c'est-tu le vrai vidéo? C'est-tu été modifié? C'est-tu ci? C'est-tu ça?
Puis, ultimement, ça reste que...
C'est fou, raide, là.
Tu sais, dans n'importe quel pays, à peu près, là, on l'a vu en France. Regarde, quand tu refuses d'obtempérer, là, quand tu refuses d'écouter les policiers, les autorités, puis tu leur rentres dedans ou tu essaies de te sauver, ça ira pas bien, là.
Non, dans tous les cas, ça marche pas.
On veut pas dire aller jusqu'à tuer quelqu'un, mais à un moment donné, puis ce policier-là, en plus, ce que j'ai lu, c'est qu'il avait été dans une situation semblable un mois ou deux avant. Il avait eu 33 points de suture sur une de ses jambes. Fait que lui, il était un petit peu nerveux, là. Bon, la femme qui n'arrête pas et qui part. Fait que... Mais c'est ça que je trouve épuisant. Là. Il n'y a plus de vérité. Hein. On dirait qu'on...
Je pense que d'un autre côté, comment on fait pour recruter autant d'employés aussi rapidement avec si peu de formation? Ça donne un peu ça. C'est des gens qui ont été engagés très, très, très rapidement. Et qui ont probablement eu très peu de formation pour qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. D'ailleurs, c'était leur plus grande opération, c'était la première fois qu'ils la faisaient. Donc, le risque d'erreur, je pense qu'il est là. Et et tu as toujours une obligation en tant que gouvernement d'anticiper le risque d'erreur. Fait que ça, c'est numéro un. Je pense que numéro deux aussi, en tant que gouvernement, tu as une responsabilité de ne pas partager des faux vidéos et de la fausse information. Ah, oui. Et carrément, on a eu des vidéos, par exemple, par rapport au Venezuela qui ont été partagées par le président Trump, qui étaient carrément des vidéos de d'autres pays à d'autres moments, qui a eu zéro vérification. Ça ne devrait pas être permis quand on influence une génération entière d'étudiants, quand on mène une armée de mettre de la fausse information. Et c'est pour ça que je déplore l'utilisation un petit peu des réseaux sociaux par les politiciens de cette façon-là, parce que c'est impossible d'avoir le temps de vérifier. On se trompe tout. Comment toi, tu peux te permettre de poster aussi vite? Tu as des journées que tu as des gens qui postent, tu dis, tu ne sais même pas comment ils ont travaillé. J'ai de la misère à poster deux fois sur LinkedIn en deux mois, puis tu as des gens qui postent à chaque minute. Tu ne peux pas penser, tu ne peux pas penser de façon éclairée si tu es occupé à répliquer et être comme ça. Et je trouve ça dommage de qu'est-ce que ça l'envoie. Après ça, on aura beau penser toutes les lois sur les deepfakes, toutes les lois sur les vidéos, mais si on peut pas croire qu'est-ce que nos gouvernements y mettent sur les réseaux sociaux, d'abord, on sait même plus si c'est le bon compte du gouvernement, mais ça, c'est le début de la fin d'une certaine façon.
On sème la confusion totale.
C'est
désolant. C'est désolant de voir ça. Là,
les fermes de botnet que toutes les partis politiques ont, puis localement aussi, là, Québec, là, ils en ont toutes des fermes de botnet. Ils chialent tout un l'autre, tout en un, tout en un. Non, vous l'avez toutes, là. c'est rendu là, là. Et c'est tout des usernames avec des numéros random, là. Classique botnet de base, puis le monde s'estime avec, t'es comme « Calibin ».
C'est comme Steve mentionne souvent, c'est la guerre cognitive, là.
Psyops à fond, là.
Il y a déjà eu un scandale au Malaisie parce que Facebook avait accepté des publicités politiciennes. C'est comme ça que maintenant, il a fallu les enregistrer. Puis tout ça, je me rappelle, ça avait tellement choqué les gens que tu pouvais acheter des publicités. Puis là, on est tellement à des merles en avant de ça.
C'est plus rien, hein?
Oui, là, tu pourrais lire ce livre-là et dire, ben voyons, c'est 7 jours, tu sais. Mais c'est quand même incroyable là, que ce que les gouvernements peuvent avoir comme reach, voire même contrôler leurs propres réseaux sociaux, là.
Yes! Yep. Ouais, mais c'est un bon début d'année, ça.
Ça va être une année intéressante.
J'ai dit, j'ai hâte toujours 5.
Finis-nous ça, mon Richer. Sur des bons mots, là. Une belle pensée. C'était plus le fun, là.
Ah, attends. On pensait à quelque chose de pas pire. Ben, dans le fond, regarde. On peut partir sur qu'est-ce que j'avais publié dernièrement sur LinkedIn. C'était bien intéressant. C'est que dans le fond, j'avais trouvé un livre qui me permettait de réfléchir un peu plus. Donc, on va parler au niveau cognitif, fait que c'est une bonne affaire de réfléchir. Mais en réalité, c'est ça. Je pensais que ma méthode d'apprentissage était correcte. Puis en bout de ligne, j'étais pas optimal. Donc, le point principal était que c'est pas parce que tu écoutes une vidéo de 10 heures que tu as 10 heures de connaissances. Fait que ça, c'est pas pire. Mais je trouve ça intéressant. Mais en même temps, c'est que ça montre un petit peu comment avoir un esprit plus critique et pouvoir décortiquer, faire une recherche un peu. Puis un peu comme faire penser comme un chercheur pour être capable de décortiquer une idée, puis être capable de pouvoir, après ça, faire un mini sprint là-dessus. Fait que tu sais, c'est comme un peu penser agile, mêlé avec l'esprit critique. Mêler avec être capable de pouvoir te donner un but court terme pour te motiver finalement. Fait que ça, je trouve
ça intéressant. L'esprit critique,
ça ouais, se ben, où, c'est, ça? C'est quand tu chiales. C'est quand tu chiales.
C'est quoi le livre? Non. C'est quoi le titre du livre?
C'était le Structure Over Chaos. Super intéressant. Vraiment super intéressant. Je l'avais entendu en audiobook. Écoute, ça dure 1h50.
Ça va chercher un peu aussi Daniel Kahneman là, qui avait écrit Thinking Fast and Slow.
Yes, c'est super bon. Super bon ce livre-là aussi. Oui. Mais c'est le même principe. Mais c'est pour ça que c'est comme un melting pot de plusieurs petites choses en même temps. Puis c'est pour ça que je trouvais ça intéressant comme livre. Fait que c'est pour ça qu'en même temps, ça te force à réfléchir un peu plus et à pouvoir faire comme là présentement. J'ai des documents pour pouvoir préparer. Je travaillais tout sur un petit projet avec l'IA, puis ça n'avançait pas mon affaire. Donc, j'ai fini par me faire un document qui me donne, OK, c'est quoi mon but que je veux faire? Je me donne combien de temps pour faire ça? Puis, tu sais, encore là, on parlait tantôt de scope pour pouvoir être capable de voir combien de choses que tu veux rajouter dans ce service-là. Mais après ça, c'est d'être capable de pouvoir diminuer pour faire en sorte que tu t'arranges pour pas te surcharger et qu'en bout de ligne, tu finisses par avoir trop de travail à faire dans peu de temps et que ça te décourage. Le but, c'est de
shipper.
Ouais, non, c'est ça, mais c'est, le but, c'est de shipper le plus vite possible. Tu sais, c'est que tu livres, tu fais des livrables le plus rapidement possible pour être capable d'avoir quelque chose. Puis ça donne une belle, un bon portfolio par la suite. Tu sais, ça peut être intéressant. Comme quoi, tu fais quelque chose, puis ça t'aide à pouvoir te donner un but.
C'est un des problèmes, je ne sais pas comment l'expliquer, mais que beaucoup de monde a en termes d'anxiété. De commencer quelque chose. Tu dis, j'aimerais ça faire ça. Puis là, t'as comme la peur de commencer, la peur d'être pas parfait, whatever. Je sais pas comment le dire comme un
fou. Oui, ben, c'est que dans le fond, ben, souvent, il y en avait du monde que c'était juste le fait d'en parler, tu vas avoir l'impression que tu as déjà fait quelque chose dans ta tête. Voilà. Tu n'as rien fait. Là. Mais moi, ce que je me suis donné comme but par rapport à ça, c'est que j'ai voulu commencer à pouvoir sabler mes marches à maison. Donc, ce que j'ai fait, j'ai sablé seulement la première marche. Donc, là, c'est tellement laid que ça vient me chercher. Là, c'est comme, là, t'as besoin de finir, là. Fait que tu vas pas que tu finisses. Fait qu'à chaque fois que je monte les marches, je vois ça, je suis comme, OK, non, moi, je le fasse. Tu sais, c'est comme ça.
Mais tu peux faire la deuxième, puis juste la deuxième aussi. C'est le progrès de petite affaire.
Oui, c'est ça, mais c'est justement, puis c'est d'en faire un petit peu à toutes les fois. J'ai pas, dans ma tête, c'était souvent de, je le fais maintenant ou je le fais pas, ou je le fais tout d'une shot, puis si je suis pas capable, ça veut dire que je ne suis pas bon, je ne suis pas capable de faire mes affaires, je ne suis pas capable de finir. En réalité, je n'ai pas besoin de finir en une soirée.
C'est ça.
Mais de me donner un petit but, mais de le faire continuellement. Puis même, comme le livre disait, c'est que disons, tu te donnes 3 journées par semaine pour pouvoir faire du travail pendant peut-être entre 3 heures et 4 heures et demie. Tu sais, une heure à une heure et demie sur une session que tu te donnes, c'est pas si pire. Si tu n'as pas 3 heures pour essayer d'améliorer ta vie, dans ta semaine.
Non, c'est ça. C'est 13 minutes par jour à lire un livre, là, ça en fait des pages à
10 minutes. Une page, c'est ça. Une page par jour. Une page par jour, un livre, tu as lu 365 pages à la fin de l'année. Tu sais, c'est pas directement du l'intérêt composé, mais c'est quand même un intérêt.
Un progrès. Puis les gens ne voient pas mais dans notre chat, Vanessa elle a dit qu'elle adore le concept de revoir un livre. Je suis très d'accord. Patrick, tu es d'accord?
Ben oui, c'est une bonne idée.
Je trouve que c'est cool. Peut-être de temps en temps, on devrait faire ça si quelqu'un d'entre nous a lu un bon livre, là, inspirant. Pas obligé d'être à faire avec la cybersécurité, mais juste que je trouve des fois d'inspirant, c'est le fun. Là.
Ouais. Je vais en avoir une coupe de bord.
Ben, pareillement. Je suis sur 2-3. Ouais. Hey, cool. Hey, merci tout le monde. Merci, Richer.
C'est possible.
On se revoit dans 2 semaines pour continuer cette année qui part en fou, en force. Choisissez le mot que vous voulez.
J'ai choisi des nouvelles positives. Là. J'ai essayé
Ah oui, mais c'était des super bonnes nouvelles. Ben oui.
C'était bon.
On aime ça. Yes. Je te laisse finir, Richer.
Bon, mais over and out. French Connection.
psychedelic experience.
French Connection.